CFM, CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du Villefranchois.
Dans le mag du vendredi, on récapitule les actualités de la semaine.
Au milieu des deux, là, entre les parenthèses, entre les virgules, il y a vraiment la collection, elle est là.
Le récap du lundi.
Karine Justo, nutritionniste, diététicienne, intervenante en goût. De quoi allez-vous nous remplir les intestins aujourd'hui après le menu mais extraordinaire de la semaine dernière? J'en rêve encore. Toute la semaine, j'ai repensé à ce petit velouté champignon safran. Et puis,
faut le faire.
Faut le faire?
Bah oui, faites-le s'il vous fait rêver.
Ah oui, bah oui, tiens.
Le week-end prochain, allez.
Bah, après, une fois que c'est consommé, c'est consommé, il disparaît. Alors que de le garder un peu en tête, comme ça, ça prolonge un peu le plaisir de ce menu qu'on peut retrouver en podcast sur le site CFM Radio à Karine Justo pour la chronique du lundi. Aujourd'hui, c'est...
Les fromages qui puent.
Oh, c'est bien ça! Mais qu'est-ce qui se passe? Les fromages qui puent.
Bah écoutez, j'ai eu envie parce que c'est vrai que, on le constate. À tous, hein, quand on ouvre notre frigo, c'est plus ou moins agréable, surtout le matin quand on se réveille. Bon, tout dépend comment on aime le fromage, mais en tous les cas, on l'a tous constaté, c'est un aliment qui peut avoir une odeur assez désagréable. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a qui ne l'aiment pas.
Après, dans le frigo, on peut mettre une cloche pour contenir. Hein,
alors, effectivement, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Juste un petit rappel sur comment on fait le fromage. Vous le savez? Vous avez déjà vu la fabrication du fromage? Voire même, peut-être, vous en faites vous-même?
Tout dépend, parce qu'il y a différentes manières de faire du fromage. Il y a des pâtes cuites, des pâtes molles. Enfin, c'est pas formaté,
la fabrication. Non, c'est pas formaté, mais quand même, la base, c'est toujours la même. C'est à base de lait, quel que soit l'animal. C'est à base de lait qu'on a caillé, qu'on a peut-être cuit, qu'on a peut-être laissé filtrer, voilà, tout dépend des fromages. En tous les cas, au bout d'un moment, on arrive à ce qu'on appelle le caillage ou l'empressurage, c'est-à-dire qu'on met des ferments, on met de la présure, hein, sinon ça resterait du lait, d'accord? C'est égoutté, c'est moulé, c'est démoulé, c'est gardé en cave. C'est salé avant, j'ai oublié cette étape du salage. Et donc, garder en cave, c'est ce qu'on appelle ce fameux affinage. D'accord? Alors, plus ou moins, même sur un même fromage, si je pense au Cantal, par exemple, il n'aura pas du tout le même goût, si c'est ce qu'on appelle un Cantal jeune ou un Cantal vieux. Hein, c'est-à-dire que vous l'achetez au bout de 3 mois ou vous l'achetez au bout de 6 mois. Effectivement, les processus de fermentation auront, pendant ce temps-là, continué et le fromage n'aura plus du tout le même goût.
Votre rendez-vous bien-être vous est présenté par le magasin Au Bio Nature et Vie, avenue de Toulouse à Villefranche-de-Rouergue.
De quoi vas-tu donc nous chafouiner les oreilles cette semaine après l'immunité la semaine dernière? Cette semaine, on reste un peu dans... On se prépare pour l'hiver ou pas du tout.
Enfin, on se prépare pour l'hiver, si, ça en fait partie. On va parler des fruits oléagineux aujourd'hui.
Ah, les oléagineux.
Je suis très emballée par cette chronique.
Non, c'est bien.
Oui, les fruits... Alors, qu'est-ce qu'on appelle les fruits oléagineux?
Ben oui, le fruit à coque, tout ce qui est noix, les
en fait, oléagineux dont on tire de l'huile, dont on peut tirer de l'huile, donc c'est gras. Les noix, donc les fruits à coque, comme tu disais, hein, noix, amandes, noisettes, noix de pécan, noix de macadamia, noix du Brésil, les noix de cajou, les pistaches, les cacahuètes, tout ça, ça fait partie des fruits oléagineux.
Tout ça, c'est bon quand même.
Ouais, tout ça, c'est bon. Et puis, il y a les graines oléagineuses aussi. Oui. Des graines dans lesquelles on peut tirer aussi de l'huile. Donc, la graine de courge, la graine de lin, la graine de chia, la graine de sésame, voilà, tout ça.
Les pignons de pain.
Ouais, les pignons de pain,
c'est bon aussi.
Ouais, c'est bon aussi. Tout ça, c'est très, très bon. Alors, évidemment, il vaut mieux les consommer, bien entendu, non salés. Mais on va en reparler.
Mais oui, d'accord, ok. Pourquoi? Ah, mais c'est les oméga 3. Non, il n'y a pas ça dans les
oléagineux. Ah oui, entre autres. En fait, il y a vraiment dans les fruits oléagineux qui sont très souvent oubliés en fait dans l'alimentation quotidienne. Et c'est un peu pour ça que j'avais, c'est beaucoup pour ça que j'avais envie d'en parler aujourd'hui ou d'en reparler aujourd'hui puisque je les cite quand même relativement souvent.
Oui.
Leur richesse nutritionnelle en fait, hein, très 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 intéressante parce que effectivement c'est gras, ça contient 60% de matière grasse, donc mais c'est du bon gras et en particulier, tu viens de citer la teneur en oméga 3 qui n'est pas négligeable.
Mais alors ça sert alors les oméga 3 ça sert à quoi les oméga 3?
C'est bon pour fluidifier le sang, c'est anti-inflammatoire, c'est bon pour la santé cardiovasculaire, la santé cognitive, le système nerveux, voilà.
C'est bon pour les yeux?
C'est bon pour les yeux. donc voilà, 60%, donc évidemment, on peut imaginer, on peut comprendre très rapidement que c'est très calorique, mais Bon, on va pas en consommer des quantités non plus extraordinaires tous les jours. Un petit peu tous les jours, ça va suffire. Et puis, de toute façon, très vite, on est saturé. On en mange quelques-uns et puis très vite, on en a marre. On n'a plus envie. Mm-hmm. On est écœuré.
Ouais, oui. Ah, les pignons de pain, quand même.
Les pignons de pain.
Toutes les chroniques de Delphine sur le cfmradio.fr, rubrique bien-être au bio, nature et vie.
CFM à Villefranche, 90.2. 90.2.
Ne vous inquiétez pas, ça repart.
Avec le récapitulatif du MAG de ce mardi.
Les haut-parleurs.
Alors, normalement, le bar est fermé les vendredis. Et depuis la rentrée de septembre, Régis a eu une initiative de réouvrir avec Michel.
Oui, ouais. Donc, on précise, pas oublier Michel.
On n'oublie pas Michel. Et le bar réouvre donc les vendredis soirs à partir de 18h30 pour ce qui est appelé la scène ouverte musicale. Est-ce que tu peux, Régis, nous dire un petit peu d'où te vient cette idée ?
L'idée, c'est pas que moi, hein, c'est quelques personnes du CA des haut-parleurs qui avaient envie de, enfin, qui étaient un peu désolés d'avoir été obligés de fermer le vendredi. À cause de la suppression d'un emploi, d'un des emplois qu'on avait au parleur. Et on s'est dit qu'à quelques-uns, on pouvait ouvrir le vendredi soir, parce qu'on pensait qu'il y avait une demande sur la Bastide d'avoir un lieu où se retrouver, où boire un verre, ouvert le soir, quoi. Donc... on s'est dit que dans l'été, là, enfin aux dernières réunions, on s'est dit que on pouvait commencer ça en septembre. Donc depuis le début septembre, on ouvre tous les vendredis soirs. Mmh. Et bon, au départ, on avait prévu plusieurs formules, c'est-à-dire soit une soirée concert. Ça a commencé d'ailleurs par une soirée lecture et concert. Mmh. Ça a démarré tout doucement et là, ça commence à prendre de l'ampleur. On a eu deux fois un concert et quatre scènes ouvertes, plus une carte blanche à une association, c'est-à-dire qu'une association qui voudrait s'installer au Haut-Parleur pour une soirée peut réserver une soirée un vendredi soir et faire sa soirée sur le thème qui correspond à son association.
Dans l'actualité de la compagnie de théâtre Clin d'œil, brève de scène. Alors moi, quand je lis brève, je pense à Jean-Marie Gouriot, mais ça n'a rien à voir. Ce ne sont pas des brèves de comptoir.
Non, pas du tout.
De scène avec des textes picorés du côté de chez Jean-Michel Ribes, qu'on connaît un petit peu pour Palace notamment, mais il a fait plein d'autres choses. Et un auteur qu'on connaît un petit peu moins, Jean-Paul Allègre, on peut peut-être le présenter.
C'est quelqu'un qui est très connu dans le milieu théâtral parce qu'il a à son actif énormément de pièces de théâtre. Je ne vais pas en parler parce que je ne les connais pas suffisamment, mais il a écrit pour les compagnies amateurs, ce qui est quand même énorme parce qu'il se met un peu à la portée où il doit aimer, je pense, les compagnies amateurs. Et d'autre part, il travaille et il fait des pièces aussi pour les lycées, c'est-à-dire que la pièce que nous allons jouer, elle a été jouée par des lycéens, quelquefois par des collégiens, et je trouve que c'est bien, justement dans les collèges ou dans les lycées, d'avoir des textes à disposition. Et je pense que c'est le système du sketch, parce que cette pièce est une forme de suite de sketch, et parce que ça n'a jamais été joué par des professionnels, ce qui est rare.
Un mot de la metteuse en scène. Je vais le dire. Corinne Andrieux, qui a son petit parcours en tant qui s'est formée au cours Florent. Ouais. Simon aussi à Paris et qui est coach en entreprise. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je crois savoir vous l'avez rencontrée.
Voilà. C'est un peu par cet intermédiaire du coaching qu'on l'a rencontrée, puisque une de nos collègues de théâtre fait du coach aussi, donc voilà, c'est par cet intermédiaire. Elle travaille essentiellement sur Rodez et aussi sur Rignac, Villefranche, elle fait de la mise en scène pour ces trois endroits au moins. Voilà.
Bref, de scène, c'est là ce samedi à 21h au théâtre municipal de Villefranche-de-Rouergue. On se plonge un petit peu dans le texte. Ça raconte quoi, sans tout dévoiler, peut-être, de ce qu'il faudra se déplacer samedi soir?
C'est une suite de quiproquos, d'embrouilles, de situations très embrouillées, mais qui se passent dans le théâtre et dans le milieu du théâtre. Donc, il y a une scène où on voit deux comédiennes qui sont en train de commencer une scène, et en fait, on se rend compte 5 minutes après qu'elles sont en train de répéter. Donc, c'est tout le temps le théâtre dans le théâtre. Ensuite, oui, il y a des quiproquos. Il y a un présentateur de télévision qui croit avoir comme invité une danseuse étoile d'un pays qui s'appelle la République populaire réunifiée, qui parle une sorte de sabir. Enfin, c'est compliqué. Donc, il y a une interprète. Et en fait, il se rend compte qu'il a une éleveuse de chèvre, une bergère qui fait du fromage de chèvre et qui vient dans cette émission pensant qu'elle pourra avoir la labellisation du marché européen. Et donc le présentateur est complètement perdu, l'interprète finit par être perdu aussi, et c'est encore un quiproquo. Après, c'est un comédien qui commence un monologue et qui est sur scène, on se dit qu'il est sur scène, et un autre qui vient le perturber. Voilà, mais c'est vraiment centré sur le théâtre. Voilà.
Coq à l'âne.
On est déjà mercredi dans le récapitulatif de la semaine.
Bonjour, c'est Marie à la recyclerie. Cette semaine, je vais vous présenter un objet plutôt particulier. Une carafe avec 6 verres. Alors, c'est une carafe, à mon avis, à cognac ou à whisky. Et la particularité, c'est qu'elle est dans un coffret en forme de taco. Et lorsqu'on lève la bouteille, ça fait aussi boîte à musique. Alors cet objet assez particulier est au prix de 25€ et vous pouvez venir l'admirer et même l'acheter à la recyclerie cette semaine. Merci, au revoir.
Nous sommes au Moulin des Arts de Saint-Rémy pour le 8e prix de la jeune création, une exposition événement, puisque c'est organisé donc par l'Atelier Blanc chaque année, donc depuis 8 ans maintenant. Et c'est le fruit d'un concours, d'un appel à candidature nationale, où des artistes âgés de moins de 33 ans vont présenter une œuvre Et sur l'ensemble des dossiers, 10 œuvres vont être sélectionnées, donc vont composer une exposition. Exposition qui se déroule maintenant, donc au Moulin des Arts de Saint-Rémy, et ce jusqu'au 4 novembre. C'est l'occasion aussi d'avoir en fin d'exposition une seconde sélection avec un lauréat qui aura accès à une résidence de création d'un mois pendant lequel il va pouvoir travailler avec une bourse de 1200 euros et une restitution en fin de résidence. C'est donc une action qui est soutenue par la DRAC Occitanie en partenariat avec Aveyron Culture Mission Départementale et mécénée par M. Bordery, l'agence GAN et le Centre Leclerc donc de Villefranche de Rouergue. Donc, en ce moment, nous sommes en présence des artistes qui composent l'exposition. Ici, Solène Bernard, Anna Buneau, Tanguy Claire, Arnaud Grappin, Princia Itouadikele, Fanny Laverne et Antonio Zuluaga. Qui sont absents mais qui exposent Sophie Blett, Elsa Bress et Julie Dutch. L'idée, c'est d'avoir un espace d'exposition et un temps de travail pour justement enrichir et développer une activité artistique qui n'est pas évidente. Et donc, c'était peut-être l'occasion de pouvoir en parler, de comment ça se passe une fois qu'on a fini la formation des Beaux-Arts et quelle est un peu la réalité du terrain, en fait, et de vos expériences à vous. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'action? Et quelles sont les difficultés ou autres? Alors, Princia.
Je pense que c'est une bonne opportunité pour les jeunes artistes de pouvoir avoir la chance de pouvoir montrer leurs pièces. Pas forcément à la sortie de l'école, mais genre un ou deux ans après. Et de surtout rencontrer d'autres artistes afin d'échanger avec eux et de pouvoir discuter, mais surtout de pouvoir enrichir aussi son travail. Parce que moi, par exemple, pour ma part, je pense que à chaque fois que je rencontre d'autres artistes, ça me permet aussi de voir d'un nouvel œil mon travail et de pouvoir explorer d'autres pistes. C'est en regardant les autres faire certaines choses que je m'inspire d'eux ou voilà, ça me donne des possibilités de recherche plus étendues. Après, c'est vrai que c'est pas toujours facile de pouvoir accéder à ces lieux parce que souvent on n'a pas la formation pour faire des dossiers. Moi, pour ma part, j'ai pas été bien formé à ça, je pense. Même si j'ai eu une formation, mais je trouve qu'elle a été un peu minime à la fin de mon cursus.
Ma petite planète, j'en ai rien à carrer. Qu'elle ne tourne pas rond. Et puis après, la pollution c'est pas mon affaire. C'est pas moi, je peux rien y faire. Ma petite planète, j'en ai rien à carrer. Qu'elle ne tourne pas rond. Et puis après, je serai plus là quand tout sera foutu. Quand la terre sera mourue. En plein jour, et ouais mon pote, je laisse allumer les loupiottes. Si j'ai de belles baskets, je prends ma bagnole quand même pour faire 500 mètres. Si les balayeurs balayent, c'est à moi qu'ils doivent leur paye. Si les châteaux d'eau turbinent, c'est qu'il me faut 10 litres pour brosser mes canines. À 20 degrés comme je me les pèle, les radiateurs font du zèle. Je pourrais bien porter un pull, mais en jacquard j'ai peur de faire écolo, c'est nul. Au supermarché, quel régal, faut voir un peu comme on emballe. Faudrait cesser de faire les marioles avant de décréter que les vaches sont folles. Ma petite planète, j'en ai rien à carrer, qu'elle ne tourne pas rond. Et puis après, la pollution c'est pas mon affaire, c'est pas moi, je peux rien y faire. Ma petite planète, j'en ai rien à carrer, qu'elle ne tourne pas rond. Et puis après, je serai plus là quand tout sera foutu, quand la terre sera mourue. Rien ne vaut mon petit confort, les transports en commun j'ignore. S'il faut serrer dans un wagon, je préfère encore me taper 20 bornes de bouchons. Trier ses poubelles c'est chiant, ça nécessite de l'entraînement. Pour distinguer le verre du carton, faut avoir au moins fait question pour un champion. J'emmerde la nature, d'accord, mais faut pas qu'elle se venge sur mon corps. Un chauffard se mange un arbre et la tête qu'on coupe c'est celle du platane. Quitte à choper la grosse dette, j'achète. J'ai tout en double même en trip, des trucs dont je me sers pas à consommer, c'est mon trip. Ma petite planète, j'en ai rien à carrer, qu'elle ne tourne pas rond. Et puis après, la pollution c'est pas mon affaire, c'est pas moi, je peux rien y faire. Ma petite planète, j'en ai rien à carrer, qu'elle ne tourne pas rond. Et puis après, je serai plus là quand tout sera foutu, quand la terre sera mourue.
CFM à Villefranche, 90.2.
On ne finit pas les phrases, hein. Jeudi, jeudi et je disais hier aussi, dans le mag, on entendait ceci.
Le Villefranchois, l'info du Quercy et du Rouer.
Eric Lachon, chef d'édition, journaliste au Villefranchois, traditionnel tour d'horizon du jeudi à l'occasion de la parution du jour de notre hebdomadaire, revue de titre qui débute aujourd'hui avec l'info de la semaine.
Une information qui est pas véritablement une très bonne nouvelle pour le tissu villefranchois, puisque la foire exposition organisée en septembre 2019 à Villefranche, eh bien, semble plus que compromise, dans le sens où le comité foire ne paraît pas en mesure de se mettre en ordre de marche pour la tenue de cet événement, qui, on le rappelle, est quand même un événement extrêmement attendu, tant au niveau économique que
des apéros.
Ouais, au niveau des animations et de l'ambiance générale qui peut régner dans le pays villefranchois. La raison de ce retard à l'allumage, c'est d'abord le fait que Sébastien Auger, qui est le président sortant du comité foire, eh bien, ne peut être reconduit à ce poste, enfin, en tout cas, dans l'état actuel des statuts de l'association. Il a déjà fait deux foires expositions, donc, en principe, il doit passer la main. Il est d'ailleurs démissionnaire de son poste. Mais derrière, eh bien, personne ne semble vouloir reprendre le flambeau. On en est maintenant à moins d'un an de l'événement. C'est une grosse machine à mettre en route, hein. Si jamais une énergie se manifeste, il faut vraiment que ça se fasse très rapidement. C'est ce qu'indique Laurent Tranier, le vice-président de l'économie au niveau de la communauté de communes, que nous avons interrogé aussi, et qui nous affirme que ce serait évidemment un très mauvais signal si jamais la foire exposition ne pouvait se tenir à Villefranche. Pour rappel, la foire exposition est un événement qui a lieu tous les 3 ans, en alternance avec la foire expo de Rieux-Pérou et de Figeac. Si jamais eh bien, ça se fait pas cette année. On passe notre tour pour 3 ans de plus, ce qui fait qu'il y aurait eu 6 ans entre les deux foires expositions de Villefranche. Il faut reprendre tout à zéro, très clairement, au niveau des exposants, au niveau de la com, au niveau des partenaires. Donc, il y a une grosse inquiétude au niveau de la foire exposition. Vous découvrirez dans notre édition, bien sûr, les points de vue de Sébastien Auger et de Laurent Tranier.
Un reportage qui nous emmène aujourd'hui à la salle des fêtes de Trespierre, à la découverte de l'entreprise, le parc Le Lutin Rose, et en compagnie de Julien, l'un des co-gérants. Bonjour Julien.
Bonjour.
Ici donc installé pour ces fêtes de la Toussaint, mais ça fait 3 ans que vous faites cette proposition aux jeunes villefranchois et aux plus âgés, puisque les enfants sont accompagnés. Avant de parler de l'installation, un petit mot sur cette aventure. Vous êtes jeune, en tout cas en âge de travailler. Comment ça a débuté ?
Ouais, on a débuté il y a 3 ans, on est parti un week-end dans des cabanes avec ma compagne, et on a rencontré des gens qui avaient un manège enfantin et une pêche au canard et qui tournaient sur les marchés gourmands. Et à partir de là, ils nous ont dit qu'ils vendaient leur affaire, et ça nous a beaucoup plu, on s'y est intéressé. Du coup, on s'est dit, ben, pourquoi pas nous, pourquoi pas leur acheter ça, et du coup faire pareil qu'eux, pour commencer à tourner, faire des marchés gourmands. Et...
Alors, j'ai la réponse, mais vous venez pas du monde de la petite enfance et vous étiez, vous, Julien, plutôt dans la restauration.
Voilà, avant j'étais serveur, réceptionniste, et donc après j'ai tout arrêté pour se lancer du coup avec ma compagne, pour les enfants, créer des parcs, parce qu'on aimait bien beaucoup les enfants et ça nous plaisait cette activité.
Et donc vous avez investi dans ces structures gonflables que l'on peut découvrir, hein.
Voilà, donc on a commencé avec le manège, la pêche, et après on a voulu s'élargir, proposer autre chose, et on a continué avec des structures gonflables.
D'un jeu de pêche à une installation de plus de 1000 mètres carrés, c'est un beau parcours.
C'est un très beau parcours, on a très vite grandi, donc très dur à suivre, mais là on est très, très fiers de nous, très contents, et on veut toujours proposer autre chose, élargir notre panel d'activités.
Est-ce que vous avez réinvesti depuis 3 ans dans de nouvelles structures, ou voilà, ce que vous avez investi au départ est toujours d'actualité, et puis sensiblement c'est indémodable, hein, pour les enfants?
Non, on a commencé du coup avec 5 structures, donc les structures après on a racheté d'autres grosses structures de varier. Du coup, les gens veulent toujours avoir des nouveautés. Mmh. Et après, on essaie de renouveler à chaque année, renouveler nos structures pour proposer du coup quelque chose de différent aux enfants. Parce que les enfants recherchent toujours la nouveauté et après, cela, c'est du coup, si c'est toujours la même chose. Et oui, donc, c'est pour ça qu'en février, on a proposé la patinoire pour avoir déjà une autre activité. Et après, il faudra voir pour les années à venir de trouver autre chose.
Vous êtes attendu aux vacances ?
À chaque vacances, on est très attendu, surtout par les grands-parents qui sont très contents de nous voir chaque vacances. Et bon, c'est vrai que voilà, on connaît un très beau succès, surtout des grands-parents. Chaque vacances, ils savent que c'est leur rendez-vous. Ils sont très contents. On a des grands-parents qui viennent tous les jours nous voir.
Ah, c'est la fin !
Pas de fin, pas de commencement. Ni commencement, ni fin. Et c'est parce que je ne voulais pas qu'il y ait de fin.